RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah, yeah, yeah.
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur RMC. À retrouver en podcast sur rmc.fr. Cette semaine, nous sommes avec Arnaud Valadon, Frédéric Weiss et Félix Gabory. Bonjour messieurs.
Salut Pierrot.
Salut tout le monde. Je guette les mines. Personne n'a mis son réveil pour regarder Wemby. Personne.
Ah si, un petit peu plus tôt pour regarder ce matin, c'est la technique.
Peut-être oui. Fred, mais Fred t'as toujours une sale tête le matin. Donc.
Mais moi je suis pas un mec du matin.
Les playoffs c'est un marathon Pierrot, si tu commences déjà à te lever à 3h du mat pour un match 1 de demi-finale
de conf. Non mais tout dépend de votre passion après, moi ça, je juge pas. Hein.
On peut avoir une passion à 7h du matin.
Voilà.
En donnant le biberon, tu vois.
En ne connaissant pas le résultat.
En ne connaissant pas le résultat.
Très bien. Match en intégrale.
Le All Possessions,
ok. T'aimes bien ça?
C'est le meilleur All Possessions, j'adore.
Même si tu n'as pas complètement le flow du match.
Pas la dramaturgie. Ouais, ouais. Si t'as le courage, vaut mieux.
Le mieux.
Évidemment.
Mais je dirais le mieux si, si t'aimes te prendre la tête. Suivez mon regard. Si tu regardes le All Possessions et à 6 minutes de la fin,
exactement,
tu te remets l'intégrale.
Tu bascules sur le feed, voilà. Ouais. Pour tout
j'aime bien.
Bonne stratégie.
Ça, j'aime bien.
Bon, eh ben c'est un spécial playoff, hein. On va pas s'éterniser hein, à l'est, à l'ouest. Et puis, comme on a ce duel Wemby-Gobert, vous allez nous raconter un duel franco-français. Voilà, un duel franco-français. Ça peut être ce que vous voulez. Hein. Ça peut être Chirac-Mitterrand, si vous voulez. Hein. C'est pas grave. Hein.
Fred,
parce que je sais que Fred n'est pas très content du thème, donc...
Ça m'a passionné.
T'as grogné, Fred.
Non, je ne grogne jamais, mais bon, je suis pas tout à fait d'accord.
Allez, on démarre avec l'est, évidemment.
In game one of the second round, the New York Knicks take a 1-0 lead, 137-98, an absolute force on both ends.
Alors, les demi-finales à l'Est, Pistons, Cavaliers et Knicks, Sixers. Avant même de parler des demi-finales, il faut dire un mot quand même de l'énorme upset Philadelphie qui sort Boston. Et puis quand même des Pistons qui ont fini par assumer leur statut de tête de série numéro 1. Ils sont passés vraiment tout près de la correctionnelle face à Orlando. Mais au final, c'est une meilleure équipe qu'Orlando. Je pense qu'ils l'ont quand même démontré.
Avec un meilleur coach.
Avec un meilleur coach, c'est ça la diff.
Qui est déjà plus là, Jamal Mosley, ouais. Qui a été viré déjà... Ouais, bah après Orlando, t'as eu des faillites. Jalen Suggs est quand même largement pointé du doigt, alors que Banchero a plutôt assumé son statut.
L'absence de Wagner fait du mal sur la
match
série.
7. Voilà, il a joué 4 matchs sur la série, ouais. Et globalement, ça résume un peu la saison des Magic. Tu vois cette saison, c'est qui croit un moment. Ils avaient fait des moves en faisant venir Desmond Bane, qui est un petit peu.
C'est un bon move.
Qui a un bon move, mais qui shoot pas très bien sur cette série.
Qui est un peu sous-utilisé, même sur la fin. C'est pour ça qu'on peut poser la question sur Mosley, sur son utilisation. Non, mais surtout, l'attaque d'un immondisme d'Orlando sur la fin de la série, c'était horrible.
Il y a eu une série de 23 shoots ratés d'affilée dans le match 6, je crois.
Non, mais même
dans le bloc. 45 minutes en temps, tu vois, de 22h à 22h45, ils n'avaient pas mis un panier. C'est un truc de ouf.
Même dans le match 7, les possessions, les attaques d'Orlando, c'était vraiment pas beau à voir.
Je vois Frédéric Weiss qui boit du petit lait.
Non, mes collègues me font rire. Ils ne se rappellent pas que dans le match 6, ils ont plus de 24. Hein. Et qu'ils sont pas si mal que ça, et que s'ils passent, il y a pas de scandale. La machine s'enraye, je suis d'accord. Sauf qu'il faut se rappeler de ces plus 24 quand même. Ça veut dire qu'à un moment, ils ont été meilleurs que l'équipe de numéro 1 de l'Est.
Oui, donc, sauf que bon, faut à l'arrivée, aussi... si c'est pour avoir plus 24 mais... de pertes, c'est qu'il y avait un problème.
Je suis d'accord. C'est juste que j'essaie d'expliquer que vous êtes en train d'expliquer que ouah, c'était super simple, etc. sur
non.
la fin.
Ah non.
Qu'ils gagnent logiquement. Je sais pas si c'était.
Ah non, Détroit était décevant.
Détroit était catastrophique.
Ils finissent bien leur série quand même, Détroit.
Et voilà, ils réussissent à assurer sur la fin du match 6.
Ils ont pas reconnaître ça.
Et Kate Cunningham est bon en plus sur le match 7, en perdant moins de ballons.
Tobias Harris,
c'est toujours bon.
Il y a Jalen Duren qui est un petit peu déçu.
Jalen Duren, lui aussi, est plutôt bon sur le dernier match. 15-15, c'est plutôt très correct. Mais dans l'absolu, je trouve que c'était une série bien équilibrée. Et c'est pas seulement parce que ça va en match 7, c'est parce que ça jouait d'une façon assez similaire des deux côtés.
C'est pas très envie. Quand tu vois que ça croise Cleveland-Toronto, à la rigueur, moi, Toronto, j'ai bien aimé. Ce qu'ils ont fait.
Mais évidemment.
Et je suis déçu qu'ils passent pas. Alors là, la série qui arrive, Cleveland contre Détroit. Pourtant, j'aime bien Détroit. Alors au-delà que c'est des villes un peu industrielles qui sont en train de dépérir, tu vois, c'est un peu les cousins, les cousines germaines ces deux villes. J'ai pas envie de regarder. Ça me fait pas envie. Quand tu vois ce qui s'est passé sur le premier tour, tu dis.
Ouais.
C'est souvent comme ça, ça peut aboutir.
C'est les deux équipes, enfin de mon avis, les plus décevantes de ce premier tour à l'est et même les deux conférences confondues. Et c'est les deux équipes qui se retrouvent, qui s'affrontent. Donc quand vous pronostiquez cette série-là, c'est un peu galère parce que vraiment.
Et tu dis qu'un des deux va aller en finale de conf.
Ouais, mais c'est ça. Elles ont vraiment été hyper inquiétantes parce que Détroit, en fait, Fred, on te faisait un peu rire, mais on pointait du doigt un peu Orlando parce que c'est justement pour nous Orlando qui paume cette série plutôt que Détroit qui ne la gagne, tu vois.
Je suis assez d'accord.
Et Détroit s'en sort parce que c'était faible en face. Mais on a vu les limites de Détroit.
Mais c'était dur, c'était solide. C'était deux équipes qui se ressemblaient beaucoup. C'était une match-up qui était très compliquée pour Détroit. Et je trouve que ceux qui me déçoivent plus, pour moi, c'est les Cavs, parce que les Raptors, c'est une très belle équipe avec les joueurs qui a manqué.
Bah oui.
Je suis très surpris qu'ils soient obligés d'aller au match 7 contre ces Raptors. Alors oui, ça joue bien au basket, les Raptors. Oui, ça donne de l'énergie. Oui, t'as sorti un mec comme Murray Bowles. Ok. Mais à l'intérieur, à un moment, il faut que tu domines. Et heureusement que sur le match 7, Jarrett Allen nous fait un 22-19. Parce que sinon, tu ne gagnes pas.
Hein. Et alors, donc, Philadelphie, est-ce que on y croit ou est-ce que c'est un one-shot? Parce que moi, ils ont pris une telle saucée dans le premier match contre New York. Ils ont déjà tout donné ou il y a un avenir dans cette
série? Moi, je pense qu'ils étaient épuisés. Tu l'as vu, ils ont joué à l'Embiid notamment. Mais en général, ils étaient épuisés. Mais je ne sais pas, moi, je considère que c'est qu'un seul match. Alors oui, c'est une rouste. Oui, ils ont pris dans tous les sens. Mais finalement, c'est qu'une défaite. Mmh. Et ils sont encore. S'ils gagnent le prochain match, ils piqueront quand même l'avantage du terrain. Donc réellement, pour l'instant, il y a statu quo. C'était OK. Pour l'instant, New York est en train de montrer sur deux matchs de suite, en comptant Atlanta. Sixers qu'ils ont progressé, qu'ils jouent mieux, etc. Mais
4 matchs de suite, faut souvenir que les Knicks sont quand même à 1-2 face aux Hawks, et là ils sont
mais sur 2 matchs de suite où vraiment ils écrasent la concurrence.
Non mais ils sont quand même sur 4 matchs de suite à plus de 135 points par match, avec Jalen Brunson qui colle presque 30 points.
Il y a 75 points à la mi-temps là.
C'était une boucherie ça. Le premier quart-temps est à peu près serré, dans le deuxième il y a plus 20, c'est terminé. Il y avait Joel Embiid. Écoute, cette équipe de New York pour l'instant elle dégage ce côté, on est en mission. Et alors, est-ce qu'ils vont rouler sur Philadelphie? Philadelphie sont tellement imprévisibles, personne pensait qu'ils allaient pouvoir taper Boston et ils vont aller arracher ce match 7.
Mais là, ils arrivent sur les rotules, hein, parce que t'as raison, Fred, quand tu dis qu'ils arrivent fatigués.
Ils ont peut-être fait déjà leur exploit.
Ils ont ce match 7, c'était quand? C'était samedi ou c'était
dimanche?
Ouais, donc voilà, c'était
dimanche soir, il y a deux jours.
Ouais, c'était il y a deux jours. Donc t'enchaînes match 7, tu sors Boston qui était parmi les
ils
favoris.
Ont off,
tu renchaînes derrière avec New York. En plus, New York qui joue vraiment très très dur. Pour moi, la bascule sur avec le premier tour de New York, ça a commencé quand ils ont commencé à mettre de l'intensité et qu'ils ont vraiment step up sur ce level là et qu'ils ont complètement asphyxié à Atlanta. Bon, après Atlanta c'était quand même pas énormément d'adversité, mais ils ont vraiment step up là dessus et aussi les role players que sont Anunoby, Josh Hart, etc. Ça se met un peu au diapason du côté de New York et collectivement t'as vraiment l'impression de rouleau compresseur. Après, t'as raison, Fred, c'était qu'un seul match hier. Comme tu dis, en plus en play-off, que tu perdes de 35 points ou d'un point, c'est exactement la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire que là, quand même, ils ont affirmé une certaine supériorité.
Oui, mais ça peut être à double tranchant.
On a vu que la série allait repartir un peu comme le premier tour, c'est-à-dire Philadelphie va être condamné à l'exploit, il va devoir aller chercher des ressources très loin, va devoir compter sur un Embiid sur qui on peut pas toujours compter.
Ça peut être à double tranchant parce que ça peut être aussi New York qui se dit finalement on les a écrasés et ça va être facile et tu peux te relâcher un petit peu, c'est humain et même s'ils n'auront pas la volonté de le faire, et de l'autre côté se dire on va pas prendre une rousse de la même façon et on va peut-être step up aussi. Donc
parce qu'il y a quand même beaucoup de talent du côté de Philadelphie.
Oui.
Il faut juste que ça connecte. On a l'impression qu'ils sont un peu fatigués. Alors je sais pas si c'est juste les genoux d'Embiid qui donnent cette impression-là, parce que
ça rejaillit sur tout le monde.
Il y a tellement d'images où il est complètement cramé, où il se touche les genoux, etc. Je sais pas si c'est uniquement lui.
Après,
ou si c'est global.
Ils ont pas une rotation de fou, hein. Ouais. Ils ont 6, je vais être gentil, 7 joueurs qui vont pouvoir t'apporter. Le reste, c'est quand même beaucoup plus compliqué, hein,
du côté de Dominique Barlow, c'est vraiment pas ouf. Grimes qui peut.
Oui, mais il y a des très bons joueurs, sauf que Paul George, on ne sait pas ce que ça peut donner sur plusieurs matchs, sur des enchaînements comme ça. Joel Embiid, on ne sait pas trop non plus. Je demande à voir quand même.
Rotation réduite, c'est du coup plus de fatigue et moins aussi d'armes pour pouvoir s'adapter et pouvoir un petit peu s'ajuster par rapport.
Peut-être des Drummond sortent de sa boîte, quoi. Il a été bon au premier tour.
Non, mais c'est pas un mauvais joueur du tout. Mais c'est pas Joel Embiid, quoi.
Après, la grande question, c'est est-ce que Joel Embiid peut faire une série entière?
C'est ça.
Ça, c'est une vraie question.
Et là, on est sur de la science-fiction.
Parce que le premier match, c'est comme s'il n'avait pas joué. Je te dis, franchement, moi, je m'attendais à ce qu'il le sorte après le troisième, qu'il le mette au frigo. Parce qu'en en fait, il ne pouvait pas, là.
Mais en fait, il aurait dû, peut-être.
Ou même se dire, on le met au frigo sur le match.
Oui, c'est ça.
Tu vois, tu vas jouer un match sur deux à New York. On t'attend pour jouer les deux matchs à Philly.
Ouais, mais voilà. Tu tentes souvent de gagner le premier parce que oui. C'est celui où tu as,
tu vois, c'est où tu peux récupérer l'avantage du terrain. Tu peux profiter de.
Est-ce que tout dépend de Joel Embiid?
Oui.
Ou est-ce
oui,
que New York est plus fort que ça?
De toute façon, avec ce qu'ils ont en face, Karl Anthony Towns, Jalen Brunson, rien que Towns dans la raquette, t'es obligé d'avoir un Embiid pour pouvoir un peu matcher ça. Sinon,
ouais,
c'est boulevard.
Surtout, ça va vite, il va l'attaquer à oui. Chaque fois, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est compliqué pour jouer à Embiid quand même, ces match-up. Et Mitchell Robinson aussi, il est très costaud. Enfin, il y a du matos.
Non, après, souvent, Towns se fait quand même défensivement sur Embiid. Towns s'est souvent bien fait dominer.
Défensivement,
carrière,
oui, ouais. Mais offensivement, il peut lui apporter des menaces. Il est obligé de sortir, il est obligé de bouger. C'est rapide quand même, Towns. Hein.
Et alors, si on en dit un mot quand même de Boston, est-ce que c'est remis en question absolue? Est-ce qu'il va falloir passer à autre chose que vivre et mourir par le 3 points? Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui leur est arrivé, hein, une fois de plus.
Mais ils ont toujours. Enfin, c'est leur.
Oui, d'accord.
Mais tu peux le faire avec un pivot, c'est le problème de Boston. Quoi.
Jason Tatum a annoncé une dynastie qu'ils auraient 5 bagues avant ses 25 ans ou je ne sais plus quoi. Et qu'au final, ils en ont une. Alors, c'est très bien d'en avoir une. Mais avec les espoirs et le niveau de jeu qu'ils affichent.
Après, Pierrot, cette année,
se faire sortir parce que tu es en panne d'adresse à 3 points, c'est un peu dommage quand même.
Non, ils sont très décevants. Après, faut pas oublier les attentes qu'on avait d'eux avant le début de saison. Quand tu te replonges sur
cette saison,
on est
d'accord, mais ils finissent au complet.
Non, mais et puis au complet, non, parce que tu as tout blessé sur ce match de 7. Après, on va pas tout remettre en question et tout jeter non plus à Boston pour juste une élimination.
C'est ça la question.
Mais par contre, Mazzulla s'est bien planté sur ce match de 7. Mazzulla, il fait un pari. Il y a un coup de poker sur ce match 7, c'est complètement planté. Quand le 5 majeur n'avait jamais joué ensemble de toute la saison, il a balancé du coup Harper qui est le moins
Harper, c'est quand même surprenant.
Qui est le moins bon des frères Harper pour le coup vraiment et on l'a vu pour au final le sortir au bout de 4 ou 6 minutes sans qu'il marque ne serait-ce qu'un seul point et il a jamais réussi à
l'an dernier, tu dis c'est pas sur cette saison qu'on va tout jeter mais ils sont déjà fait attraper l'an dernier et là pour le coup
il y avait des grandes attentes et oui c'était déjà
mais tu peux te poser des questions et je te rejoins pas tout à fait Félix parce qu'effectivement en début de saison t'as pas d'attente sauf que vu l'avancée de la saison vu que tu termines deuxième vu que Jason Tatum arrive les attentes arrivent
bien sûr
et donc tu as quand même une grosse déception parce que finalement je suis bien placé pour le dire tout le monde imaginait que Boston serait en finale en fait vu la saison qu'ils ont fait sans Tatum arrive en plus il est bon dès qu'il arrive. Bah, tu te dis, c'est pas possible que tu fasses autrement. Et comme tu fais autrement, bah, c'est une énorme déception. Moi, je pense qu'il y a des choses à voir du côté de Boston.
Bien sûr, du coaching de Mazzulla qui, pour le coup, il fait n'importe quoi. Il fait l'apprenti chimiste sur la fin de la série. Déjà, toute la série, avec le retour d'Embiid, il a jamais réussi à s'adapter, à trouver la solution pour défendre contre Embiid. Il s'est entêté dans un small ball. Il s'est entêté aussi, au pied, même offensivement, sur ce jeu à 3 points. Et jamais trouvé une seule solution. Le moment où il tente un coup de poker sur le match 7, c'est complètement foiré parce qu'il a été
le problème de Boston est assez simple, c'est que qui continue à miser sur le jeu à 3 points, c'est pas dérangeant, mais est au moins un vrai bon pivot. Keita, on a vu, ça peut pas tenir la route. T'as fait venir Vucevic qui fait son âge, mais par rapport aussi à ce style de jeu, il est lourd, Nikola Vucevic. Il a une main.
Vucevic qui a été benché sur le Game 7,
depuis son trade, ça a jamais trop pris. Il sortait toujours du banc, il avait à peine 20 minutes. Quand t'es champion, t'as un Porzingis. Qui est là, si je dis pas de bêtises, même si c'est Porzingis, sais qu'une fois sur deux, il peut, oui, probablement, mais t'as besoin quand même d'un pivot à peu frappe. Tu mets un Hartenstein dans cette équipe de Boston, t'as au moins un pivot qui tient la route défensivement, qui va gêner tout le monde, qui peut aussi te mettre des petits points. Keita, on l'a vu, c'est pas possible. Donc le chantier, il est simple, c'est au moins avoir un intérieur à peu près impactant des deux côtés du terrain, et ça ira. Après, tu peux continuer, tu as la qualité de shooter, tu as tous les guards qu'il faut. Que tu sois un peu small ball sur le poste 4 en mettant un peu Jason Tatum, pourquoi pas, mais au moins avoir un pivot de bonne facture. C'est juste ça qui leur manque. Et ça ira mieux après.
Avant de passer à l'Ouest, est-ce qu'on a tout dit sur Pistons Cavaliers? Ça peut être mieux ou pas que ce que vous imaginez?
Moi, je pense que ce sera une belle confrontation. En fait, je n'aime pas du tout les Cavs, donc j'espère que les Pistons vont
les
écraser.
Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les
Cavs? Mais ils sont nuls. Ils sont catastrophiques. Ils m'ont encore plus déçu contre les Raptors. Donovan Mitchell, je suis désolé, bof. James Harden, je suis désolé, mais bof. À l'intérieur, tu te dis, tu es dominé par Scottie Barnes et Murray Bowles.
vraiment.
Scotty Barnes, vrai joueur.
Alors Scotty Barnes, ouais, Murray Ball qui fait 2 mètres. Il a dominé des mecs qui font 2m10, 2m15 en face, hein, largement. Donc moi j'ai trouvé ça insupportable. À regarder jouer, c'est insupportable. J'aurais vraiment adoré que les Raptors passent, parce qu'au moins, il y a une âme dans cette équipe.
Et les Cavs passent au Game 7, ils ont besoin d'un Game 7, oui, alors qu'en face, t'as ni Ingram ni Quickly. Donc mais il te manque deux gars dans ton 5 majeur. C'est
incroyable. Donc j'espère que les Pistons vont les balayer.
Faudra quand même faire un truc sur les cercles à Toronto, hein, parce que entre le buzzer beater de Kawhi et là, ce buzzer beater de Barrett, le ballon...
On le voit plus à l'écran.
Ça monte à 2 mètres, non?
À un moment, on le voit plus à l'écran. C'est clair.
C'est le panier ensorcelé. C'est le même? C'est du même côté ou pas?
Tu crois?
C'est le même côté.
Oui, c'est le même côté, à gauche. À gauche de la caméra.
Bien, alors, c'est fait pour l'Est. Qui va être champion à l'Est?
Ah, les Knicks, ils sont quand même lancés comme pas comme des frelons, mais...
Attention, hein, parce que...
Les Knicks, s'ils continuent comme ça, ça va être une équipe très sérieuse. En fait, ils ont besoin de se rassurer en attaque pour être bon défensivement, ce qui est paradoxal pour cette équipe, mais quand ils sont bons en attaque, ils vont être bons défensivement. Donc ils vont passer contre les Sixers et après contre les trois.
Après, comme d'hab, les Knicks, c'est la hype et gérer cet environnement new-yorkais, parce que déjà que ça commençait à s'enflammer sur le parvis du Madison Square Garden à Chambray, c'est... Ah, quand New York va en ébullition, c'est fou, quoi.
Ah bah oui, mais en même temps, ça peut te porter, hein, aussi.
Allez, on passe à l'Ouest.
Minnesota, San Antonio.
And we are here enjoying the best of the best.
11 blocks, most in NBA playoff history.
Right. Slide to the left, lob to the right. He's blocking everything right now.
Cannot get it to go. And Minnesota comes in on the road and steals game one.
Alors, on va beaucoup parler de ce Wolves-Spurs, hein, parce que je pense qu'il est plus intéressant sur le papier que le Thunder-Lakers. Mais surtout, on a déjà vu le premier match, super match d'ailleurs, qui se termine donc sur un shoot au buzzer de Champagny pour gagner. Mais c'est Minnesota qui récupère l'avantage du terrain. Alors, d'abord, qui est favori de cette série ?
J'avais dit les Spurs au début, sauf qu'avec le retour d'Edwards...
Qu'est-ce que tu as dit sur les Spurs d'ailleurs ?
Arnaud n'avait pas vraiment dit les Spurs. Hein. Vendredi, dans le podcast La Semaine des Français, il a dit 4-0, 4-1.
Bah, 4-1 c'est
encore possible. C'est encore possible. Après, je l'ai dit en disant Edwards ne joue pas au début.
Oui.
Mais ça me fait un petit peu douter.
Bon Edwards, d'ailleurs. Hein.
Exceptionnel. Ouais.
Bah, il a mis du temps un peu à se mettre en route, ce qui est normal pour le coup. Mais dans le quatrième quart-temps, bah, oui, quand tu as un joueur de cette qualité.
Il colle 11 points, il met un tir sur la truffe de Victor, ouais. Exceptionnel. Non, mais tu sais que c'est... là, j'ai un doute parce que. J'ai vu des Spurs être des petits garçons, entre guillemets, face à les chiens de la casse, je le dis, vraiment, c'est des mad dogs.
Des loups, quoi.
C'est cette équipe, oui, voilà, Timberwolves, évidemment. Mais ouais,
c'est des loups classiques, d'ailleurs, les Timberwolves.
Oui, exactement. Oui. C'était une question du quiz.
Comme quoi, les questions de culture générale servent à quelque chose.
Oui. Ce type de question, oui.
Ah, bon. Ce type de question, c'est bon.
Ouais.
Tu me diras quelle question je ne fais pas.
Je te dirai
quelle
ça.
Et j'ai adoré le duel entre Rudy et Victor. Vraiment dans deux styles, et j'ai adoré comment les Wolves ont amené Victor parce que dès que Victor prenait de la vitesse, il démarrait son drive à la ligne de 3 points, il était inarrêtable. Il l'a fait quelques fois, c'est là où il a marqué. Alors il finit quand même à 5 sur 17, Victor.
Bah, 0 sur 8 à 3 points.
À 3 points.
Et dans la lignée des deux derniers matchs aussi contre Portland, hein, où il n'a pas été très adroit, il met qu'un seul tir, hormis le game 1 où il fait 5 sur 6. Et c'est la façon dont les Wolves ont amené Victor à avoir un match un peu physique. Rudy l'a un petit peu chassé
à l'éloigner du cercle,
ouais. Soit à l'éloigner du cercle sans ballon, soit ok, tu peux peut-être avoir le ballon mais être proche du cercle, et là Rudy a été bon, il l'a chassé, Randle a essayé de passer par devant, Rudy, bon, qui nous fait un magnifique panier avec la faute pour démarrer le match, qui nous fait un airball derrière sur lancer franc, l'ami Rudy, mais c'était un super duel, j'ai adoré. Moi je trouve que Victor a plus été lâché par ses partenaires, la défense sur tous les extérieurs de Minnesota. Fox a pas été bon, il est catastrophique dans le deuxième quart-temps où Minnesota revient parce que les Spurs ont un peu le momentum, donc voilà.
Après Fox, on tombe beaucoup sur lui, même encore après ce premier match.
Quoi,
oui,
ça.
Non mais il y a ça. Par contre, dans le quatrième quart-temps,
c'est lui qui revient,
qui met les quelques paniers importants, qui va au panier avec des drives, ouais, comme tu dis, et qui parvient quand il y avait 8 ou 9 points d'avance pour Minnesota, qui ramène tout le monde et qui ramène les Spurs. Donc, alors oui, sur l'ensemble du match, il a été un petit peu en galère, et même c'était déjà le cas un peu au premier tour. Mais non, par contre, oui, t'as raison Arnaud sur le côté chien de la casse des des Wolves. Et sur le côté, l'intensité des playoffs. Tu vois que cette équipe-là, elle connaît par cœur l'intensité de ses matchs de playoffs, que c'est une équipe qui reste sur deux finales de conf d'affilée, un groupe qui est quasiment inchangé par rapport à ces deux finales de conf, et que voilà, l'intensité de ces matchs-là, ils sont d'une dureté. Naz Reid, il a un petit côté Doherty, à un moment donné, hein, il pousse Victor, là, quand Victor finit par terre, fait une énorme glissade. Ils ont ce côté un peu, ils ont vraiment ce côté un peu nasty, tu vois, on leur rentre dans la bouche, et ça, les Spurs, c'est une des grosses clés, c'est de se mettre au niveau. Les Spurs, ils ont ça en eux aussi, surtout quand tu vois leur leader, Victor Wembanyama, qui a ce bon leadership et qui est capable de fédérer et qui est capable de répondre à ça. Donc je me fais pas trop de soucis par rapport aux Spurs pour répondre encore une fois à cette intensité.
Mais qui est le deuxième leader des Spurs ?
Bah, y a Fox.
C'est pas Fox.
Mais normalement, sur le papier.
C'est Castle.
Et c'est Castle qui, dans l'intensité, ça peut être Castle. Castle, d'ailleurs, qui sort pour 6 fautes à 3-4 minutes de la fin. Ouais. Et ça fait aussi du mal aux Spurs pour cette fin de match. Mais après, on a tendance à être un petit peu alarmiste sur les Spurs. Faut pas oublier qu'à un shoot près de Champagny, et un shoot qui était ouvert, c'était un bon shoot. C'était une bonne possession.
Est-ce qu'on peut discuter de cette dernière possession ?
Moi, je
suis pas spécialiste comme vous. J'ai trouvé qu'ils l'ont pas bien joué, qu'ils se sont précipités, que c'était pas maîtrisé.
Mais non, mais
d'abord,
le shoot,
il y a 6 secondes et demie. À la fin. Je trouve qu'ils perdent un temps fou à remonter le ballon.
Je trouve que Victor un peu trop le ballon.
Victor perd une seconde,
en fait,
une seconde et demie.
Victor aurait pu remonter.
Mais est-ce qu'il s'est pas dit, mon coach va prendre un temps mort et s'arrêter un petit peu? En tout cas, c'est peut-être l'impression visuelle que ça donne.
Il y a 2 points, il n'y a pas 3 points. Pourquoi 6 secondes et demie, tu donnes pas
le
ballon à Victor Wembanyama à l'intérieur qui leur monte sur la gueule, prolongation, on est à domicile. Moi, je sais pas. En fait, la défense n'est pas en place. Donne le ballon vite, court.
Le match, ils ont passé le temps à doubler
ballon
sur Victor.
Vite.
Alors, en fait, déjà, tout le match, Victor n'a pas réussi à enfoncer les mecs à l'intérieur. Donc, il y a aussi une part d'intelligence de Victor de donner le ballon sur le terrain.
Mais vraiment, Pierre, moi, j'ai une vraie question pour toi. Tu trouves que le shoot est mauvais ?
Mais c'est ça la question.
Il n'y a pas de préparation, quoi. Il le rate bien quand même. Hein.
Honnêtement, il le met. C'est pareil. C'est pas un mauvais shoot.
Et surtout d'un mec qui est chaud, qui a la main chaude, parce que Champagny, c'est lui qui permet aux Spurs de revenir aussi à la fin.
Après, il y a des matchs qui se gagnent comme ça, c'est la NBA qui est comme ça, il n'y a pas une aberration.
C'est que tu as envie que ça soit la star qui prenne le tir aussi, c'est peut-être ça aussi.
Moi ça me semble plus sécure d'aller tenter 2 points dans la raquette qu'un 3 points où tu es à 38% de réussite, en gros, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que tu as une chance sur 3, quoi. Voilà. Bon, moi je pense qu'à 6 secondes et demie, tu dois être capable de me donner le ballon à Victor qui leur écrase la gueule.
Non, en fait, je me dis, Victor aurait pu remonter la balle tout de suite. Je pense que
je sais pas si t'as le temps. Je pense qu'on passe, ça va plus vite, par définition. Et qu'ensuite, tu te retrouves avec Champagny, que tu l'as expliqué, qui était plutôt chaud, qui se retrouve avec un shoot quasiment ouvert après dribble, donc normalement où tu peux bien replacer tes pieds.
Ouais.
Moi, je suis
pas choqué que Mitch Johnson, qui s'en expliquait parce qu'il trouvait que voilà, Minnesota, le repli est pas horrible, il est plutôt en place, mais voilà, par rapport à ce que les Spurs savent faire, qui étaient plus forts en transition que sur jeu placé, donc c'est peut-être pas chaud, je trouve ça pas choquant.
Qu'est-ce qui se passe? Tu prends un temps mort, c'est-à-dire qu'il y a 5 joueurs sur le terrain et 4 attaquants. Donc ça veut dire que défensivement, tu peux orienter exactement où tu veux le jeu. Donc moi, je prends pas ce risque non plus dans ce cas de figure. Surtout que, encore une fois, le shoot est bon.
Le shoot est bon, la défense n'est pas en place, donc c'est pour ça que oui, le temps mort, si tu prends le temps mort, ça ne sert pas à grand-chose.
Tu prends le temps mort, tu te retrouves à avoir 5 joueurs défensifs et 4 offensifs.
Mais le shoot est très bon, parce que Pierrot, le shoot est ouvert. C'est pas comme si tu prends un shoot casse-croûte à 45. Le shoot est vraiment ouvert et voilà, bah, ça, la pièce tombe pas du bon côté.
Le problème pour moi, c'est Victor qui prend trop de temps pour refiler.
Oui, il y a cette petite seconde.
Est-ce que lui, il n'aurait pas pu porter un petit peu la balle? Que tu vois Victor qui arrive lancer plein axe, les mecs ils sont fous devant. Je pense dans l'extra passe il a fait quand même quelques passes durant ce match. Faut quand même parler des 12 contre aussi, hein, parce que ça c'était incroyable ce qu'il a fait dans ce registre.
Déjà il fait 2 contres avant que la marque soit ouverte, hein.
C'est ça. Et Rudy met le troisième.
Oui ça, il y a 3 contres de suite sur les 3 points.
12 contres dans un match, enfin un triple double avec 12 contres, enfin je sais pas si on se rend compte quand même du truc de ouf.
Non, mais
et ils arrivent, et ce qui est dommage, c'est que t'as un type qui te fait 12 contres. Tu perds le match quand même.
Oui,
tu vois.
Mais c'est grâce à ça qu'ils sont dans le match.
C'est grâce à ça qu'ils sont dans le match.
Et donc, ils auront d'autres opportunités dans la série.
Et dans le deuxième quart-temps, ils doivent pas laisser Minnesota revenir. Ils ont un bon passage et que...
Ils l'ont sorti d'où, ce Shannon, là?
Mais lui ne sait pas, mais le match précédent, il a été exceptionnel.
C'est un joueur, c'est un gaucher.
On l'a très peu vu même, mais c'est quelqu'un qui a une patte gauche impressionnante, qui peut pénétrer, qui est puissant, qui va très
dynamique.
Haut. Franchement, moi, il m'a impressionné. Hein,
sur, comment sur... c'est possible de, mais tu vois, Pierrot, de découvrir un joueur comme
non,
ça
non, mais c'est le propre d'une équipe.
C'est la blessure de Di Vincenzo ou ça n'a rien à
oui,
voir.
Bah, ça, bien sûr.
Oui, c'est libératoire. Mais tu vois, Pierrot, c'est le propre d'une équipe qui tourne tellement bien collectivement que n'importe quel joueur que tu mets dans ce collectif-là est sublimé par le collectif. Et tu sens qu'ils ont la dynamique pour eux. Tu mets n'importe qui.
Ils ont l'air plus forts que. Plus fort sans Di Vincenzo en fin de compte.
C'est différent. Ouais. Parce que Di Vincenzo, il t'apporte cette menace extérieure. Mais quand il rate, c'est vrai qu'il est moins intéressant. Mais c'est vrai que Shannon, il peut défendre. Il est plus puissant. Il peut pénétrer. Il peut vraiment attaquer les grands. Il va vraiment haut. Moi, j'adore ce joueur.
Oui, Dawson Mou aussi, qui est un peu out.
Ah, mais
oui.
bien out, évidemment.
un peu out.
Non, mais Dawson Mou, c'est pas une surprise. Alors, il se révèle à Minnesota, c'est très bien. Mais oui. On avait vu des qualités quand même déjà au Bulls.
En sortie de banc.
Oui, mais pas à ce niveau-là quand même.
Non, pas à ce niveau-là. Mais ce Shannon, là, tu m'aurais dit, bon, bah, lui, il va avoir.
C'était la première fois qu'il a intégré ça.
Tant de minutes et tant de ballons en playoff ou non?
C'était la première fois de sa carrière qu'il a intégré le 5, quand même, Shannon. Donc, c'est quelqu'un qui découvre ce genre de moment, de play-off, de responsabilité, il a été exceptionnel.
Vraie faiblesse aussi, moi je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, sur le poste 4 des Spurs aussi sur ce match-là. Je trouve qu'elle
se voit trop seule,
et du coup, Naz Reid et Julius Randle, les deux qui sont absolument monstrueux, et là où en fait, dans le match-up, les Spurs sont un peu en galère, c'est que tu as deux joueurs ultra forts sur le poste 4 de Minnesota, là où c'est le poste un peu plus faible des Spurs. Et tu vois que Keldon Johnson ne peut pas défendre sur Naz Reid ou sur Julius Randle.
Ah, il en prend un sur la truffe dans le Money Time.
Et idem pour Champagny qui ne peut pas défendre. Il y a la blessure de Carter Bryant qui était absent hier, qui fait un peu de mal, parce que Carter Bryant, pour amener un peu de physicalité, un peu de viande, tu vois, sous les cercles, qui peut être pas mal. Et après, moi, je me pose la question, est-ce que tu tenterais pas un petit coup de cornette poste 4? Une petite association Wemby-Cornette. Wemby en 5, Cornette en 4, pour justement essayer de limiter l'impact de Randle et de
Naz. Cornette sur Randle, il va se prendre 50 points.
Ouais. Non,
je te dis, ça va pas assez vite.
C'est pas un plot défensif, hein,
Cornette. C'est pas un plot défensif sur les 5, pas sur un 4 qui peut bouger comme Randle. Il va lui provoquer 3 fautes en 3 minutes, il va servir à rien.
Cornette aura pas
impossible. Waouh, ça y est, le mec était.
Stephen Brown n'est pas là, donc il est obligé de
prendre le relais. J'ai pris sa place,
ouais, c'est vrai, il est à sa place. Juste sur le Thunder Lakers.
4-0.
4-1, gentleman sweep.
N'oublions pas. On a revu Luca faire des tirs.
Il n'y a pas de.
Mais.
Et plus.
Non, mais Luca va dit, les... no update.
Et
non,
plus mais... Luca joue, plus c'est sûr que ça sera 4-0. non, mais en fait, j'ai une explication. Non, en fait, tu comprends pas ce que je veux dire. Enfin, vous ne comprenez pas.
Oui.
Je suis pas en train de dire qu'il joue moins bien avec Luca. C'est juste qu'on sait sur qui cibler la défense. Tu vas lui mettre un chien de la casse dessus. Et ce sera plus difficile pour les Lakers de s'en sortir.
Et puis pour Luka, les dernières nouvelles, elles ne sont pas du tout encourageantes. Il n'a même pas encore repris la course.
Ouais.
Donc, surtout que la série peut aller assez vite. On le voit un peu dans nos pronos. Tu n'as pas repris la course là. Je ne vois pas comment, dans une semaine, tu peux être dispo. Quoi.
Surtout contre OKC qui ne court pas du tout.
C'est ça.
Quelle équipe peut poser le plus de problèmes à OKC? C'est les Spurs ou c'est Minnesota?
Ah. Bah, les...
Je ne sais pas. En fait, il n'y a pas longtemps, j'aurais dit les Spurs. Là, j'ai tendance
les match-up, on en a parlé, sont presque plus favorables aux Spurs. On les a vus comment ils ont réussi à enquiquiner OKC.
Ouais, mais après,
ces Wolves-là, si Edwards ne se répète pas.
Si Dawson Moore revient bien, il y a quand même beaucoup, beaucoup de dangers dans cette équipe. Donc attention.
Ils peuvent leur faire mal dans la dureté, justement, la dureté des Wolves qu'on a décrit tout à l'heure. Ils peuvent leur faire vraiment mal.
Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, j'ai trouvé les Spurs un peu soft.
Oui, quand je te disais petit garçon.
Ouais, un peu soft.
Tu as senti que les autres, c'est les darons. Ouais. Quoi. C'était une équipe de darons, ces Wolves.
Désolé, mais Victor aussi un peu. Sur certaines actions, un petit peu soft.
Poussé par Rudy. Il y a une petite photo rebond quand il le bloque ça. Mais c'est les playoffs, là.
Est-ce qu'on a. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une équipe aussi favorite, non? Que OKC. Quand tu vois le panorama global.
Même sur toute la NBA,
l'Ouest. Non, mais pas que à l'Ouest, mais pour être champion.
Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais ça ne veut pas dire qu'il le soit.
Non, ça ne veut pas dire qu'il le soit. D'ailleurs, Boston a été un peu dans son statut-là, sans être champion à chaque fois.
Mais sur le back-to-back, Boston était aussi favori qu'OKC maintenant.
Ouais, c'est ça.
Mais,
et OKC, là, pour l'instant, bénéficie de match-up vraiment très favorables quand même. Parce que les Suns, on en a parlé, ils n'avaient pas les moyens de pouvoir rivaliser. Et là, les Lakers, c'est pareil. Les Lakers sans Luka, avec Austin Reeves qui vient tout juste de revenir.
LeBron
va être complètement seul face à l'armada du Thunder.
Mais ils vont l'épuiser,
collectivement, le compresseur du Thunder peut faire très mal à Papy LeBron.
Non, mais c'est pour ça que je reviens quand même très rapidement sur une discussion qu'on avait eue en fin de saison régulière. Est-ce qu'il fallait lâcher le match contre Denver pour que Denver soit... Ou non, c'était pas ça, pardon. C'était pas ça, le dilemme, mince.
C'était sur la place, oui, parce qu'en fait...
Pour que les Spurs...
Les Nuggets avaient...
Laissent les Lakers troisième. Mais j'ai oublié. Donc on pourra couper sans montage. On ne coupera pas puisqu'on est dans les conditions du direct. C'est pas grave.
Mais c'est hyper intéressant.
Après, c'est plus Denver qui...
Non, mais j'ai un souvenir que quelqu'un avait dit, ça ne se fait pas en NBA. On ne calcule pas sur les fins de saison. Mais sauf que là, quand même, OKC a un tableau fantastique. Je pense que les Spurs auraient mangé les Lakers beaucoup plus facilement que Minnesota.
Après, c'est plus les Rockets avec la blessure de KD, parce qu'on s'attendait à ce que les Rockets passent, tu vois, vu la genèse, vu ce qu'ils ont en magasin. Et c'est presque... plus une surprise de voir les Lakers.
Et après, c'est toujours dur d'essayer d'anticiper, parce que si on se rappelle ce qu'on disait il y a quelques semaines à la fin de régulière sur Denver, c'était l'épouvantail absolu. Ils étaient sur une fin de saison régulière de dingue. Jokic qui était en feu. Et au final, ils se sont fait sortir par l'équipe C des Wolves au premier tour.
Tout à fait. Donc, cette discussion n'aura pas lieu. Bien comme ça. Donc, nous allons passer à la partie historique. Donc là, il y a le duel franco-français Wembanyama-Rudy Gobert. On peut de nouveau d'ailleurs saluer les playoffs de Rudy Gobert. Et peut-être qu'il va finir par prendre une bague, on ne sait jamais. On ne sait jamais.
On ne sait jamais. Vraiment, on ne sait jamais.
Hein. Ouais.
Il ne faut jurer de rien. Rien n'est écrit. Mais ce duel, peut-être nous en remémore certains autres. Félix, tu vas nous parler en 2014 du duel entre Tony Parker et Nicolas Batum.
Ouais, moi j'ai pris cet exemple parce que j'aime bien le parallèle justement avec Rudy et Wemby, parce que on sait que Rudy et Wemby sont rencontrés par le biais de leurs agents communs quand Wemby était encore très jeune, adolescent, et on se souvient de ce fameux 2-contre-2 à l'entraînement. Les vidéos avaient beaucoup ressorti à l'entraînement quand Wemby était encore avec Nanterre. Bref, du coup, Rudy et Wemby, ils en ont beaucoup parlé, ils se connaissent bien même en dehors. Et c'est pareil pour Tipeee et Nicolas Batum, dont je vais vous parler pour ce match de play-off en 2014. Tipeee Batum, ils étaient aussi très potes pendant leur carrière. Ils sont même devenus partenaires dans le business à l'ASVEL, où Tipeee, le propriétaire, a fait appel à son ancien coéquipier en équipe de France pour devenir co-actionnaire avec lui. Mais avant ça, ils se sont donc croisés lors de ces play-offs 2014, et c'était déjà au deuxième tour de la conférence Ouest, comme pour Wemby et Gobert. D'un côté, tu avais les Spurs, finalistes malheureux en 2013 contre Miami. C'était le fameux shoot de Ray Allen un an avant, avec le trio Duncan, Ginobili, Kawhi Leonard autour de Tipeee, le tout coaché par évidemment Greg Popovich. De l'autre, on a Portland qui a une très belle équipe. Aux côtés de Batum, on a Damian Lillard, LaMarcus Aldridge, Wes Matthews ou encore ce bon vieux Robin Lopez. Sauf que la marche pour Portland, elle est un petit peu trop haute, parce que la logique entre les Spurs qui étaient leaders de la saison régulière et Portland qui était cinquième, elle est respectée et la série commence par 3 victoires pour San Antonio. Donc à 3-0, le staff de Portland se dit qu'il faut quand même changer quelque chose au match 4. Et c'est là que Terry Stotts, le coach des Blazers, nous sort un petit ajustement de son chapeau, à savoir mettre Nicolas Batum en défenseur attitré de Tony Parker. Et la mission, elle est sacrément périlleuse pour Batum, parce que Tipeee, il est en feu depuis le début de la série. Le meneur des Spurs, il tourne à 26 points et 8 passes de moyenne depuis le début de la série, avec notamment une pointe à 33 points et 9 passes sur le match 1. Du coup, c'est un vrai choix fort d'envoyer Nico Batum pour essayer d'éteindre son compatriote, et le pari, il a plutôt bien fonctionné sur ce match 4, parce que Batum fait un boulot monstrueux, il limite l'impact de Tony Parker à 14 points. Et dans ce match, il pousse également Tipeee à un ratio qui est bien moche en termes de passes décisives et balles perdues, parce qu'il est à une passe décisive pour 3 pertes de balles. Donc il y a l'impact défensif de Batum qui est colossal, et aussi son match dans la globalité, parce qu'il n'a pas fait que défendre et éteindre Tipeee. Sa ligne de stats, c'est 14 points, 14 rebonds, 8 passes, donc à 2 doigts d'un triple-double énorme. Et la stat la plus importante sur ce match-là, c'est qu'il y a la victoire pour Portland, qui évite le sweep et qui revient à 3-1 dans la série. Bon, derrière, San Antonio a gagné le match 5 quand même et finira par être titré quelques semaines plus tard, encore contre Miami avec la revanche. Mais on se rappellera donc qu'il y a un homme, Nicolas Batum, qui a sonné la révolte et qui a réussi à enrayer un petit peu la machine grâce à son énorme défense sur Tony Parker, qui était son grand pote et qui était jusqu'ici inarrêtable. Et après le match, Tipeee, il a notamment fait que de parler de Batum en saluant son travail. Donc on avait une belle connexion française, même dans l'adversité, alors que Tipeee s'est fait éteindre par Batum sur ce match.
C'était en 2014. Donc.
Tout à fait.
Frédéric, toi qui n'avais pas envie...
Après, ceci dit, il y a quand même Kawhi dans cette équipe, donc je ne sais pas, est-ce que c'était finalement le bon choix de mettre Nico sur Tony, alors que Kawhi finit MVP et était le go-to guy de ces Spurs-là, quoi.
Ouais, mais... En fait, ton rôle, c'est d'embêter Félix, c'est ça?
Non, parce qu'il a... Attends, il a raison dans ce qu'il a dit. C'est d'embêter Terry Stotts, voilà, c'est ça mon rôle.
Parce que sur cette série, vraiment, Tipeee était en feu, ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Donc ils se sont dit, allez, on va envoyer Batum.
Parce que t'avais Lillard, que t'allais pas pas faire défendre Damien Lillard sur ce type-là. Hein.
C'est ça.
Fred, alors, as-tu trouvé quelque chose d'intéressant à nous raconter, toi qui as trouvé le thème totalement nul?
Le thème m'a passionné. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Je rêvais de trouver d'autres grands qui s'affrontaient. Donc forcément, j'ai trouvé exactement ce qui me convenait. Vous rappelez, en 2017, le CSK est champion en titre. Mm-hmm. Ils vont affronter Anadolu Efes. Ouais. Anadolu Efes va se déplacer dans cette magnifique enceinte qui est le Megasport Arena. Mm-hmm. D'accord ? On est le 27 janvier 2017. Et dans chacune des deux équipes, il y a un Français membre de l'équipe de France. Alors, d'un côté, du côté du CSK, il y a Nando De Colo. Oui. Du côté de l'Anadolu Efes, il y a Thomas Hurtel.
Ah, mais tu me parlais de grand.
Oui, c'était une vanne.
D'accord,
j'ai pas trouvé de grand. Mais on parle de grands joueurs quand même. Donc on va voir s'affronter deux joueurs fantastiques membres de l'équipe de France. Deux joueurs qui inspirent leur équipe, deux joueurs qui sont capables de créer la différence. Donc ça va bien commencer, on va commencer par un 25-24 sur le premier quart-temps. Et d'un seul coup, évidemment, le grand CSK va prendre les devants à 42-35 à la mi-temps. Et c'est là que Thomas Hurtel va devenir le Thomas Hurtel qu'on connaît. Prendre des shoots complètement fous, faire des pick and roll, prendre des shoots après, derrière la ligne à 3 points, commencer à faire de la folie. Il finira d'ailleurs ce match à 24 points, 4 passes et 27 d'évaluation. Et de l'autre côté, on a le sang-froid, le sang glacé de Nando De Colo, qui va finir à 14 points, 4 passes, mais qui va mettre ses petits paniers assassins, qui va mettre ses petits paniers très difficiles. Le match va terminer à 80-77. On va voir s'affronter d'un côté la glace, même si c'est pas tout à fait vrai pour Nando De Colo, mais en tous les cas, l'image qu'on en a, c'est la glace. Et de l'autre côté, la créativité d'un Thomas Hurtel avec le feu. Mmh. C'est un match qui est fantastique. D'ailleurs, on verra une accolade assez incroyable juste après, dans les couloirs, où on verra ces deux joueurs s'embrasser. Et ce jour-là, on peut dire que le basket français a gagné, mais le basket en général a gagné.
Ah, bravo.
C'est beau.
Sauf
Fred.
Que tu nous as pas dit 80-77 pour qui ?
80-77 pour le. Bah, si je te dis 80-77, je te dis pour qui par définition.
Ah bon, d'accord.
Ben oui. En fait, c'est l'équipe qui reçoit, 80, l'équipe qui est reçue, 77.
Ok, si tu veux, pas de problème. Bah, tu vois qu'il y a des choses intéressantes à raconter.
C'était passionnant, j'adore ce sujet, vivement qu'on en ait d'autres du même acabit.
Est-ce que la carrière de Thomas Hurtel est réussie pour vous ? Enfin, elle est accomplie, parce que réussie elle l'est. Est-ce qu'elle est accomplie ? Est-ce qu'il aurait pu aller plus haut, faire plus de choses ?
Écoute, il est vice-champion olympique en équipe de France. Il a marqué son empreinte dans des grands clubs. Moi, oui, je l'ai réussi. Oui.
Bah, il y a un petit goût d'inachevé parce que là, on aurait aimé l'avoir dans cette équipe de France-là, en ce moment, au poste de meneur, avec cette génération-là. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir.
Il commence à faire son âge. Après, c'est sûr que c'est un drôle de loustique, Thomas Hurtel.
Non, mais au niveau basket, il n'y a absolument rien à dire. C'est un joueur incroyable. Fantastique, incroyable. Chaque fois qu'il passe en une équipe, il les a sublimés.
Il a un QI basket monumental, Thomas.
Après, ses choix, son caractère, sa façon d'être,
je le prends.
C'est compliqué.
Non, je disais en 2024 pour les JO, il n'aurait pas fait tâche. Franchement, à ce niveau,
mais ça veut dire que si tu fais Hurtel, t'as pas Strazel qui est clos comme ça et qui a mine de rien un peu rempli ce rôle-là, hein, Mathieu Strazel, hein, qui nous sauve contre le Japon, tu vois, et qui est. Tu vois, je pense que.
C'est deux profils différents.
Oui.
T'as un mec qui a du basket plein les doigts et l'autre qui est encore plus dans les clous, j'ai envie de dire.
Ouais, et puis ce que je veux dire, je pense que les minutes, t'aurais dû les minutes de Strazel, tu les aurais peut-être donné à Hurtel, tu vois.
Ouais, mais il était capable aussi de lui mettre des paniers de fou, donc pourquoi pas.
Oui.
Donc finalement, mon sujet était intéressant.
Oui.
Finalement,
tu vas créer un débat, tu n'y croyais pas.
En fait, je vous expliquerai comment ça fonctionne. On fait semblant de ne pas aimer, finalement. On essaie de travailler comme un petit.
Arnaud Valadon, de quel duel franco-français vas-tu nous parler ?
Je vais remonter à 2021, puisque je cherchais un petit peu des duels où on avait des Français starters. J'ai choisi cette demi-finale de conf entre les Clippers de Nicolas Batum et le Jazz de Rudy Gobert. Les Clippers sont passés tout juste face aux Mavs juste avant en 7, avec un Nico Batum qui joue, qui est titulaire dans cette équipe et qui fait du Nico Batum dans le texte. Ça sera le cas sur cette série que les Clippers face aux Jazz vont gagner 4-2, du 10 points, du 7 rebonds, etc. Et en face, on a Rudy, donc Nico Batum qui retrouve les playoffs après son intermède Charlotte, qui revit, c'est vraiment le moment où il va totalement revivre. Et puis derrière, évidemment, il y aura les Jeux Olympiques qui vont arriver pour l'équipe de France à Tokyo. Et en face, on a Rudy qui, avec son gars Donovan Mitchell, qui fait des cartons sur cette série. Rudy Gobert qui a été exceptionnel dans ses playoffs, même si, enfin exceptionnel, ils ont fait que deux tours, mais contre Memphis au tour d'avant, il nous a sorti deux pointes à 21 et 23 points. Là, il arrive contre ses Clippers où il fait du Rudy, il va prendre 20 rebonds au match 2. Il est sur les stats à 12 points, 11,7 rebonds, un bloc par match. De l'autre côté, t'as, alors c'est évidemment pas un duel direct sur le terrain. On va pas demander à Nico Batum de défendre
crevé,
sur Rudy.
Nous, on s'est crevé justement pour trouver des duels directs. Mais après, si t'as pas envie, tu nous le dis.
Non, j'ai pas envie.
Si le sujet ne te convient pas, il faut le dire.
Non, mais voilà, parce que c'était des Français starters. Nico Batum, il a démarré 5 des 6 matchs de cette série.
Félicitations, Félix, d'avoir respecté le sujet.
Les Clippers qui vont perdre contre Phoenix derrière. Donc, ça reste, voilà, deux Français titulaires dans des playoffs NBA, donc voilà, je voulais mettre ça en honneur parce que je regarde 2022, 2023, 2024, 2025, j'ai pas ça en souvenir de voir des Français starters avec voilà 30 minutes de moyenne chacun dans leurs propres équipes, et puis voilà, c'était mon petit hommage quelque part.
Et quand tu dis un compte de moyenne, ce qui est déjà pas mal en playoffs par aujourd'hui, match, on a un autre regard sur les 12 contres en un match de Victor Wembanyama quand même.
Oui, il faut se banaliser. Après la NBA, je ne sais pas si vous avez regardé, il y a quelques comptes qui sont très sympathiques quand même. Quand tu tapes la planche avant, par exemple, ce n'est pas un compte.
Ah oui.
Par exemple.
Oui, oui. Mais ça n'a pas plu du coup à Nasrid. En plus,
je peux comprendre.
Oui. Elle était pas malin, cette partie historique.
Plusieurs fois. Ouais.
Et tu vois comme
le sens original.
Oui, mais ça a été comptabilisé comme un compte.
Et tu vois comme quoi, quand on cherche dans un passé assez récent, Nicolas Batum revient deux fois parce qu'en fait, ça met un peu aussi un petit peu de, ça met un peu de respect sur Nicolas Batum, parce que quand tu reviens dans les 10-15 dernières années, un garçon qui était impactant en playoff, c'était très souvent Nicolas Batum.
Un garçon que tu retrouvais quasiment tout le temps en playoff. Il y a une petite période à Charlotte.
Tout le monde respecte Nicolas Batum, cela dit, il n'y a pas de débat.
Ouais, c'est toujours bien de rappeler aussi, petite piqûre de rappel.
Tu as raison, par contre, voilà. Félix, c'est la deuxième fois que tu as raison, alors que Arnaud...
il est revigoré par son sujet.
Et oui, il s'est senti, je pense qu'il s'est senti très bon, il s'est senti bien là, il est dans la zone.
Je pense
là,
que tu vas gagner le quiz.
Je m'appelle Frédéric, j'ai joué au basket un petit peu quelques années, et j'ai même joué dans un film. Je peux insulter Kevin Garnett, qui est un débile profond absolu. Ensuite, il est juste pas gentil en fait, ce mec. Ce mec est pas gentil. Et tu sais quoi aussi, la plupart des gens, quand un basketteur shoot dans la corbeille et qu'il rate, il dit ah t'es basketteur pourtant. Ben, je dis oui, basketteur c'est pas mettre du papier dans les corbeilles. Hein.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais.
Et dis-moi le contraire, prove me wrong.
Non, mais je viens de te dire que c'est exactement ça, t'as raison. Ok, et wrong, tu peux dire mieux que ça quand même.
Prove me wrong. Essaye, vas-y.
Il est compliqué, wrong. Hein.
Non, wrong.
Wrong.
Non, pas wrong. Wrong.
Wrong.
Mais tu dis wrong.
Non,
wrong.
C'est lui qui dit wrong.
Alors, si tu continues, je vais vous refaire une question de prononciation.
Vas-y, moi je suis chaud.
Ok, allez, la semaine prochaine, je vous le fais, c'est promis.
Je suis pas là.
Donc, on démarre par un petit blind test. Les duos franco-français, non pas franco-français, les duos francophones. Victor Wembanyama, Rudy Gobert en chanson. Donc, c'est parti, premier extrait.
Garou et Céline.
Arnaud, il est là.
Ah oui, je l'attendais. Parce que mais quand t'as dit francophone, je me suis dit.
Il est monté sur la table, carrément, Arnaud, sur Céline.
Et d'ailleurs, on chante avec Arnaud, ça. Moi, je fais Garou et lui, je fais Céline.
Ouais, ça va très bien sur votre tessiture, c'est parfait. Hein. Deuxième extrait.
Gainsbourg et
Jane Birkin. Ouais, Jane Birkin, oui. C'est ça, bravo. Bravo, Arnaud.
Je sais pas s'il a dit Gainsbourg en premier, mais
on est pas loin d'une simultanée sur Gainsbourg. Ouais,
t'as jamais dit Birkin.
Si, je dis Birkin.
Ouais, mais après lui.
Ah. Mais c'est celui qui commence en fait.
Ah, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, si, c'est vrai, celui qui commence doit avoir un avantage. Mais t'as pas marqué un temps d'arrêt comme Wemby sur la dernière
fois.
Pour moi, elle a démarré Gainsbourg en même temps.
Bon, peu importe. Tu
neutralises.
Troisième extrait.
Ma question préférée.
La fille.
Je vais faire de tout cet
Booba.
Oseille.
C'est un duo.
Je vais faire de tout cet
Caris.
Oseille.
Qui est du Caris.
Moi.
C'est bon. Allez,
on sent la génération là.
Et dernier extrait. Ça, c'est pour Shred.
Wow. Je m'en fais plus ça.
TG.
Non, je me rappelle la chanson, mais qui chante le
plus? Baby, tu aimes, dis-moi.
C'est de la bonne merde, hein. Attention.
Hein. C'est un duo.
Mais je sais, la chanteuse, mais je sais pas qui. Je sais que c'est Elsa, mais l'autre,
oui,
pas du
Elsa,
mais je sais pas qui c'est.
Et alors l'autre. En fait, l'autre, il a disparu de la circulation. Tu peux t'en souvenir simplement parce que t'as entendu souvent le nom du duo à l'époque, dans les années 80-90. Juste sur ce morceau, je sais pas quand il est sorti d'ailleurs. C'est Elsa et Elsa et Ging.
Elsa et Ging.
Oui. Elsa et Glenn.
Médéros.
Voilà, ah,
je te le donne. Ouais, je te le donne.
Pas de Stone et Chardin, je suis quand même déçu.
Non, il n'y a pas de Stone et Chardin. Tu n'as jamais entendu ce morceau, Félix, c'est trop jeune.
Ah si, j'ai entendu. Ah, bien sûr.
Glenn Médéros.
De là avoir l'artiste. L'artiste.
L'artiste, ouais.
L'artiste.
Entre guillemets. Alors ensuite, on y va sur les questions de culture générale. Ça va être simple. Une seule réponse possible.
Chacun son tour ou...
Non, tous ensemble, mais une seule réponse possible par personne. La réponse, c'est une des villes qualifiées pour les demi-finales de playoff. Ok ? Donc je vous donne un fait et vous me dites à quelle ville il correspond. Vous êtes prêts ?
On est prêts.
Alors, très dur pour démarrer. Ensuite, ce sera plus facile. La ville qui abrite le site d'entraînement
Minnesota.
Olympique de canoë-kayak américain, c'est pas Minnesota.
Los Angeles ?
Ok, si.
Oui, mais t'as qu'une seule réponse.
Oui, mais...
Voilà, donc bah, personne n'a
okay,
le point.
Si.
Vous saviez pas.
C'est
toi qui fais les sports olympiques, Arnaud. Donc,
donc le pot de
l'équipe américaine de canoë kayak s'entraîne à OKC. Ensuite, ville de la signature de la déclaration d'indépendance des États-Unis.
Philadelphie.
En 1776. Ah, oui. Évidemment, Philadelphie, Arnaud. Ville qui a accueilli le premier échangeur routier à quatre niveaux dans le monde. Non.
Je pense que c'est
Minneapolis.
Los Angeles.
Et oui, Los Angeles, ouais, bien sûr, la ville de la bagnole, ouais, Los Angeles.
C'est trois aussi. Hein.
Quatre ville niveaux. Ensuite, ville qui abrite la plus large concentration d'architecture coloniale espagnole dans tous les États-Unis.
San Antonio.
Il est là, Arnaud, attention.
Il est rapide.
Et enfin, autrefois appelée New Amsterdam.
New York.
Je crois que c'est Arnaud encore. Hein.
Je sais pas. C'est Arnaud, on est parti, hein, en même temps. Il a tellement d'avance que tu pourras me le donner.
Bah, je suis plus prêt, tu vois.
Mais 6 points.
Ah non, parce que ma spécialité, Pierrot le sait, c'est que j'ai de l'avance, mais je finis par la perdre.
Ouais, alors ensuite, on passe au basket avec une boucle, hein, puisqu'il n'y a pas de thème vraiment dans ces playoffs. On démarre, on devine un joueur qui joue les demi-finales de comp. Je vous donne juste les endroits où il a joué. Mm. Ça va aller vite. Hein. Villanova, Dallas.
New York.
Jalen
Brunson.
Ouais.
Tu m'as donné le dernier indice.
Oui, je sais,
c'était
mais
pas
en fait,
ça qu'on te demandait. Oui. Bravo, Jalen Brunson. Donc, Jalen Brunson, je change de main, gaucher. Donc, vous devinez un gaucher célèbre avec un seul indice. Non, mais c'est célèbre.
Okay.
Je vais pas te demander un gaucher pas célèbre. Donne-moi un gaucher pas célèbre.
Un
de tes anciens coéquipiers.
Ah bon ? Qui ?
Je sais pas, t'as pas joué avec les gauchers.
Stéphane Rizacher, il est célèbre.
Il est célèbre. Ouais. Bah, c'est plus célèbre que Stéphane. Okay. D'accord ? Alors, donc, avec un seul indice, hein, MVP 2018.
Harden,
c'est bon pour Félix. Ensuite, tu vois, c'est pas difficile. Champion olympique 2004.
Ginobili.
Ah. Il va vite. Ensuite, alors, pas champion en 58 ni en 67.
Pas champion.
Ni en 58, ni en 67, non.
Chamberlain ?
Non.
Chamberlain droitier aussi.
Pas champion.
L'indice est important.
Pourquoi tu nous dis ça, pas champion ?
C'est parce que c'est important, justement. Pas champion en 58, ni en 67. Il suffit de comprendre l'indice.
Havlicek ?
Non. Mais t'es dans la bonne équipe. Dans la bonne franchise, du moins.
Mike ? Non.
Non.
Oh.
Ah, si, mais je sais, putain !
Ben oui. Non, mais sors-le.
Je trouve plus son nom.
Bah oui, mais sors-le.
Mais
reconnecte.
Reconnecte. Non, je trouve pas.
Tes neurones. Là, c'est juste la pression
du
jeu.
Mais c'est hyper simple.
Russell ?
Oui.
Mais oui.
Ah oui, mais je sais que tu l'avais, hein. J'ai vu, c'est écrit là.
En fait, j'ai failli dire son numéro retiré partout et tout ça, mais j'allais les aider.
Donc, Bill Russell, oui. Ensuite, vainqueur de l'Euroleague 89, 90, 91.
Saras ?
Non.
Bodironga ?
Non.
Droitier.
Ah. Petrovic,
Drazen Petrovic.
Non,
je passe. Tu es droitier ou gaucher, je balance les noms qui me viennent.
Ah oui, mais non, plus de réfléchir à un mec gaucher. Grégor Fuchka,
qui a ensuite marqué Sabonis l'histoire de la NBA. Un talent, un grand talent.
Euroleague et NBA.
Oui, Euroleague et NBA. Dans 90. Les années 90.
Oh,
je peux pas vous aider plus. Oui.
Coucotte.
Ah oui. Ouais, tu l'as pas dit en entier. Hein.
Je dis Kukoč.
Bah, je l'ai dit en premier.
Dis Kukoč.
Ouais, je le donne à Arnaud, mais je sais pas pourquoi tu t'es arrêté.
Parce que je tiens le C. comme les corps, ça.
Donc, alors 8 points pour Arnaud, 3 pour Félix, 2 pour Fred. Vrai ou faux sur Tony Kukoč. Arnaud, drafté au deuxième tour.
C'est faux.
C'est vrai. Ah. 29e, mais à l'époque, le premier tour, c'était 28. Ou peut-être même
je ne l'aurais dit pas de rappeler, ouais, c'est pour ça que j'ai dit.
Ensuite, Félix a joué à Atlanta.
Ça sent le piège, donc je vais dire vrai.
Ça sent le piège, donc tu vas dire vrai, bah bien joué.
Ça sent la question piège.
Donc c'est vrai. 3 fois MVP du Final Four de l'Euroleague, Fred.
Faux.
Non, c'est vrai, 90, c'est vrai. 91 et 93. Ensuite, quel ancien joueur des Knicks et des Lakers, puisqu'on est sur MVP du Final Four, écoutez bien la question. Quel ancien joueur des Knicks et des Lakers a été le premier joueur de... Pardon. Quel ancien joueur des Knicks et des Lakers a été le premier joueur de l'histoire élu MVP de l'Euroleague en 1988 ? J'ai cité deux franchises, mais il y en a d'autres. Hein. Un joueur NBA qui a été le premier MVP de l'Euroleague en 1988.
C'est pas Michael Richardson ?
Non.
Bon, de toute façon...
MVP. Vous l'avez pas ?
Non.
Bob McAdoo.
Ah, bah
bon. Je ne savais pas.
Une seule réponse possible. 1988. Qui est champion NBA ?
Lakers.
Oui, les Lakers. Bravo. Face à Détroit.
Mais il est rapide un peu, non ?
Oui, très rapide.
Très rapide. Très en forme. Toujours finale 88. Qui est MVP des finales ?
James Worthy.
Comment ?
C'est James Worthy, ouais.
Oui.
Je l'ai dit,
oui. Il a dit. Il est bon, hein. Quel futur MVP a été coéquipier de James Worthy en 80-82 à North Carolina?
Michael Jordan. Michael Jordan.
On lui accorde parce que vous n'avez pas réagi. Hein. Attention, c'est un carnage. Hein. C'est un New York Philadelphie.
T'as pris quoi?
Peut-être il a vu les questions.
Non.
Quand je suis allé chercher mon café.
Ah, sur mon ordi. Est-ce qu'on tient pas un truc?
Et enfin, quel joueur actuel a été comparé au lieutenant de Jordan, Scottie Pippen, par LeBron James?
Austin Reeves?
Non.
Anthony Edwards?
Non.
Scottie Pippen? Jalen Williams?
Non.
McDaniels?
Non.
Stephen Castle?
Non.
Il est dans les playoffs ou pas?
Il vient de se faire sortir.
Amen Thompson?
Non.
Jalen Johnson?
Oui.
Mmh.
La comparaison est bonne. Ouais.
Et peut-être un peu plus go-to guy que...
Bah, Scottie aurait pu être go-to guy, aucun problème. Non, je pense que peut-être que Scottie était meilleur défenseur, peut-être.
Mais donc, tu l'as trouvé quand même par réflexion, pas parce que tu as vu l'info. Donc,
Donc, c'est que doit y avoir un truc. Oui, ouais, j'ai cherché des mecs un peu dominants.
Bon, bah, c'est bien, tu marques ton troisième point. Tu peux jouer à la deuxième place face à Félix, qui est à 4. J'arrive même pas à compter comme ça les points d'Arnaud. Il est à 11. Oh là là, mais c'est pas fini. Puisque la boucle se boucle avec un Jalen Johnson ou Jalen Brunson. Puisqu'on a démarré par Jalen Brunson. On va finir
ou
par Jalen Brunson.
Ou Jalen Rose.
Arnaud, plus de 25 points de moyenne cette saison. Jalen Johnson, Jalen Brunson, les deux ou aucun des deux?
Jalen Brunson,
évidemment. Arnaud, drafté au deuxième tour.
Brunson est drafté au second tour, il me semble. Est-ce que Jalen Johnson? Je dirais Brunson.
Brunson 33e en 2018. Ouais. Étonnant, non?
Étonnant.
Ah ouais, non, super.
Et mais même Jalen Johnson est drafté tard, au-delà de la 20e place.
Genre 25e, comme ça.
Ensuite, c'est Fred. J'ai au moins un match à plus de 50 points cette saison.
Brunson?
Aucun des deux. Brunson 47 et Johnson 40.
Je chipote.
Ouais, je chipote. Question Mesmer.
Le nouveau spectacle de Mesmer avec RMC.
Je vais vous faire la question où vous devez être d'accord avec moi pour avoir le point.
Oh putain, il recommence.
Oser l'expérience où maîtrise de soi et fascination se rencontrent.
Mais c'est pas vrai.
T'as trouvé ça où toi?
Mais qu'est-ce que tu me fais chier toi? Voici la question Mesmer
avec RMC.
Étant donné que les jeux sont faits, on n'est pas obligé de la faire. Si vraiment vous n'aimez pas cette...
Non, pose la question.
Cette rubrique.
On avisera après.
Alors, la question est la suivante. Avec un autre joueur que Pippen, les Bulls sauraient-ils gagner 6 titres? Eh oui. C'est importante cette question. Elle fait débattre depuis 30 ans.
Bah, non.
Comment ça? Non, elle ne fait pas débattre ou la réponse est non?
Non, il n'y a pas de débat.
Il n'y a pas de débat?
Non.
La réponse est non.
Non, la réponse est oui, il n'y a pas de débat.
Ah.
Non, il n'y a pas de débat. Et la réponse est oui.
Juste la... répète
donc,
bien la question.
Ils auraient gagné 6 titres même sans Scottie Pippen.
Non, ils n'auraient pas gagné sans Scottie Pippen. Il n'y a pas de débat en fait. C'est complètement fou quoi.
Oui, c'est oui ou c'est non?
C'est la confusion entre le oui et le non qui me fait rire.
Pour moi, il n'y a pas de débat.
Il n'y a pas de débat, la réponse est non.
Ils n'auraient pas gagné.
Voilà, donc la réponse est non.
La réponse est non.
Donc il n'y a pas de débat.
Parce qu'un joueur de ce niveau, de ce calibre, de cette intensité, de cette dureté, dans une autre équipe, il n'aurait pas voulu être second. Il n'aurait pas pris cette responsabilité d'être second.
Non, la question concerne les Bulls, hein. Pas Pippen ailleurs. Hein.
Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il n'aurait pas voulu être second. Il est second qu'aux Bulls, en fait, ce que dit Pippen. Un joueur aussi fort,
T'en aurais pas eu un autre second aussi fort, c'est ce que
pas,
tu veux dire.
C'est pas possible.
Et donc, il aura
plus. Et en plus, défenseur, attaquant, enfin, il avait vraiment tout en stock.
Très bien. Arnaud ?
Pour moi, oui, Michael Jordan aurait quand même gagné 6 bagues.
C'est la question, c'est le GOAT. Hein.
D'ailleurs, sans Pippen, il a été très très bon avant. Hein. Vraiment.
Et Pippen, sans Michael Jordan, il a été exceptionnel aussi.
Ben non, c'est pour ça que j'ai dit en numéro 2.
Donc,
mais merci.
Parce que Michael Jordan est Michael Jordan et qu'ils auraient toujours trouvé le moyen d'entourer le GOAT simplement. Ils avaient fait venir Steve Kerr, Kukoc, il y avait Dennis Rodman.
Steve Kerr, vraiment, tu compares Scottie Pippen à Steve
Kerr. Non, mais de savoir entourer Michael Jordan, il aurait quand même réussi parce que ce mec est le GOAT.
Voilà. Félix,
Jordan aurait sûrement gagné beaucoup de titres, mais peut-être pas six. C'est surtout pas un deux sweep-it comme ça, parce que oui, Jordan est le GOAT, mais cette équipe-là, avec ce qu'ils ont fait, ce qui était formidable, ça reposait sur le meilleur joueur de l'histoire, avec sans doute le meilleur lieutenant de l'histoire, le tout coaché par sans doute un des meilleurs coachs de l'histoire. C'était toute cette alchimie-là qui faisait ça. Et clairement, Scottie Pippen, je le dis encore, c'est vraiment le meilleur lieutenant de l'histoire. C'est un gars qui aurait pu être franchise player ailleurs. Il s'est mis au service de Michael Jordan. Ça lui a pas toujours fait très plaisir et il y a eu quelques remous, mais vraiment cette association là des deux, on ne reverra jamais deux joueurs si forts pouvoir s'associer.
Alors là, je suis très embêté parce que c'est une question moi qui me taraude. Vous savez que vous
il
avez
même
le
pas
point
la
si vous pensez comme moi. Donc moi, je pense plutôt comme Fred que c'est non, sauf que je culpabilise de pas dire et penser la même chose qu'Arnaud, parce qu'effectivement on a envie de se dire mais de toute façon c'est Jordan. Donc, les 6 titres, il les aurait pris.
Mais suis ton cœur, Pierrot, hein,
tu es d'accord. Je suis très embêté. Donc.
Parce que tu as dit Fred, mais j'ai dit la même chose que Fred.
Non, pas tout à fait.
Bah.
Donc, pour régler le problème, je vais faire un truc très sale. Je vais donner un point seulement à Fred.
Parce que. Différence entre Fred et moi.
Alors, c'est qu'il est radical. Il m'a dit non, alors, mais non, c'est évident.
Il a dit non, mais oui.
Alors que toi, tu as argumenté des trucs qui ne m'intéressent pas. Moi, c'était
si tu veux juste une réponse.
C'était soit Fred, soit Arnaud.
Tu veux juste une réponse sans nuance aucune.
Non.
Alors c'est un débat qui te taraude et que tu veux de la nuance.
Pour cette question, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir de nuance. Je pense, c'est ce que je pense. Mais je peux me tromper.
Mais est-ce qu'en apportant de la nuance, je ne suis pas le plus proche de toi qui toi-même.
Oui, mais malgré tout, la vie est injuste. Donc. Il fallait une réponse radicale. Voilà, moi je ne voulais pas autre chose. C'était oui ou non. C'était clair et net. Et donc, malgré ma culpabilité, j'accorde le point à Fred.
Évidemment. Voilà.
Et donc, pour finir, on passe aux enchères, parce que là, ça va être aux enchères, puisque Arnaud a 12 points, Félix 5 et Fred 4. Je remarque qu'il est toujours aussi mauvais perdant.
Il est mauvais perdant, de ouf.
Bah, excusez-moi, il y a quand même pas mal d'injustices.
Non, mais il y a des raisons. Il y a des raisons, mais.
Excusez-moi. Hein.
La question, mais Mesmer, il ne faut pas attendre de la justice.
Mmh.
Voilà. Alors, les joueurs qui ont au moins 6 titres, il y en a 13, mais beaucoup qui sont peu connus.
Ah oui.
Les Celtics notamment. Donc vous allez me donner des enchères, Fred et Félix. Et puis on va voir si Arnaud veut enchérir. Ok, Fred, première enchère. De toute façon, tu es obligé de faire 8. Il y en a 13, ça va être dur. Hein.
J'ai aucune idée.
T'as aucune idée? 6 titres? Si, t'as une idée.
J'en ai quelques-uns, oui.
Oui,
mais quelques-uns.
Bah, déjà, que donne ta première enchère avec ce que t'as. 6 titres, 6 bagues. Là, il est en train de compter.
4,
ça suffira pas pour gagner. Félix.
Non, j'en aurais pas 8. Donc,
ça n'aura pas 8.
Non, j'en aurais pas 8.
Ça en a combien?
Ouais, j'étais sûr. Je sais même pas si j'en ai plus que 4.
Ah ouais. Alors, est-ce que Arnaud, tu veux les détruire psychologiquement en montant au-dessus de 4?
Ouais, comme je suis à Pogacar. 4 quasi sûr.
Ouais.
5.
En même temps, il dit ça en train de regarder sur son téléphone. Donc,
exactement.
C'est...
Non, je suis en train de noter. Je note les noms. Allez,
okay,
on tente 5.
Il y en a. Bon, il y en a. Allez, on va dire ça. Il y en a 3 faciles. Et il y en a 1 trouvable. Et les autres, il y en a 2 autres à trouver. Et
ah,
le
mais
reste,
oui, non, mais c'est bon.
Il faut être un goat.
Alors.
T'en as combien?
Je vais tenter 5.
5, allez, vas-y, je t'écoute.
Michael Jordan.
C'est bon.
Scottie Pippen.
C'est bon.
Bill Russell.
C'est bon. Voilà les 3 plus faciles.
Évidemment. Kobe Bryant.
Non, pas du tout.
Il y en a 5.
Il
n'y
a pas 5
bah, c'est 6.
Est-ce qu'on lui enlève.
Ah mince. Oh, je suis bête.
Est-ce qu'on lui enlève son titre du coup?
Bah, ouais,
oui, oui.
Après, j'avais Robert Horry.
Robert Horry, c'est bon.
Et Karim Abdul-Jabbar.
Et Karim, c'est bon, je t'accorde la victoire. Bravo à toi.
Il n'y a vraiment aucune justice.
Vous voulez les autres?
Ouais.
Sam Jones, Tom Henson, Casey Jones, tout ça c'est les Celtics. Tom Sanders, il y a John
Havlicek,
Frank Ramsey, il y a aussi Bob Cousy et Jim Loskutov. Je vous ai donné la réponse avant d'enregistrer ce podcast. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.